Les chemins de traverse de la recherche. Radio du théâtre. Bonjour Clément.
Bonjour Viviane.
Alors ce matin, une petite émission qui débute peut-être une grande aventure. Une émission qui est proposée par l'UMR Littéar, donc l'unité mixte de recherche sur l'UGIA, où on a voulu interroger avec les docteurs, jeunes docteurs et les doctorants, ce que nous fait la recherche. Une recherche qui évolue par rupture, digression, requalification ou braconnage. Et l'envie peut-être de partager les influences et les surprises qui surviennent à ces moments très particuliers de nos vies où nous sommes immergés dans ces recherches. Alors, il ne s'agit pas tout à fait de parler de nos thèses ou de parler exactement de nos sujets, mais de dire comment ces sujets ont constitué des paysages dans lesquels nous nous sommes engouffrés et au sein desquels nous avons fait des rencontres parfois surprenantes et avec lesquelles nous avons marché. Donc, on va témoigner de ces parcours, essayer de vous recomposer tous ces paysages, et avec moi ce matin, Clément, qui a un beau paysage extrêmement luxuriant, puisque nous en avons parlé juste avant, nous avons préparé cette émission, et donc l'envie de vous amener jusque-là. Mais avant de partir en voyage et avant de prendre ces premiers chemins de traverse, revenir sur un point qui est très important et qu'on a évoqué ce matin, et que avec lequel tu as voulu introduire un petit peu tout ça. Tu me disais ce matin que faire une thèse, ce n'est pas anodin.
Non, c'est tout sauf anodin, évidemment. Alors, d'abord, je suis très heureux d'ouvrir le bal. Je souhaite un bel avenir à ces émissions qui sont, à mon sens, très importantes et qui ne sont pas anodines, précisément. Merci beaucoup à toi, à Ludivine, à Littéar, de m'avoir convié. C'est un réel plaisir de revenir derrière ces micros, puisque j'ai l'habitude de les pratiquer. Et merci, Louis, également, d'assurer la technique. Mais pour te répondre, effectivement, tout ça n'est pas anodin, parce qu'il faut se rappeler, et ça, je crois que c'est quelque chose que je défendrai toujours, il faut se rappeler que faire une thèse, c'est un engagement et c'est quelque chose qui va produire une œuvre vraiment importante. Alors, je ne dis pas qu'on révolutionne toujours le monde de la recherche, c'est pas la prétention. Je dis juste que le diplôme de la thèse, c'est aujourd'hui, en termes de vécu, d'accès, de niveau de diplôme, c'est le niveau de diplôme le plus haut. Le doctorat est le niveau de diplôme le plus haut qu'on puisse atteindre en France. Et déjà, ça, c'est pas anodin. Donc déjà, si vous êtes lancé dans une thèse, là, je m'adresse aux jeunes doctorants, si vous êtes lancé dans une thèse, quel que soit votre sujet, déjà, bravo à vous, déjà d'une part. C'est pas anodin parce que c'est quelque chose qui va vous prendre littéralement des années de votre vie. Il ne faut pas prendre ça en négatif, c'est pas que ça va vous vampiriser, pardon, on parlait de vampire ce matin, ça ne va pas forcément vous vampiriser toute votre existence, mais par contre, ça va vous occuper un bon moment de votre vie, ça va être exigeant, la thèse va être une maîtresse exigeante, il va falloir composer avec elle, il va falloir lui parler, il va falloir accepter des moments plus difficiles que d'autres. Ça fait partie du travail, mais dites-vous que c'est un travail vraiment très important que vous accomplissez, et déjà soyez fiers juste du fait d'avoir accepté l'aventure, d'avoir signé pour faire une thèse, quel que soit encore une fois votre domaine de recherche.
Alors juste pour rebondir par rapport à ma propre spécialité qui est en socio-anthropologie et de cette thèse qui n'est pas anodine, alors effectivement il y a ce niveau. Il y a une exigence qui court un peu toute cette expérience, mais je trouve aussi qu'il y a un fait assez intéressant lorsqu'on regarde la méthodologie et les ouvrages de méthodologie, notamment en sciences humaines et sociales. Moi, je vois apparaître quand même beaucoup d'ouvrages qui vont traiter des émotions dans la recherche. Mmh. Ou des déroutes du terrain, pour moi, puisque c'est plutôt ça, hein, avec cette anthropologie qui n'est pas un sport dangereux, par exemple, qui a été déjà avancée vers les années 2000, à la fin des années 90. Donc on a souvent eu tendance à qualifier des terrains un peu plus sensibles, un peu plus dangereux, parce que on évoquait les personnes vers lesquelles on se dirigeait, vers lesquelles on dirigeait notre recherche, alors qu'on oubliait aussi que nous-mêmes, nous sommes engagés, nous sommes plongés, nous sommes parfois instrumentalisés aussi, et que ça peut être une source de déconvenue, voire de déroute, voire de peut-être d'une petite perdition, une petite suspension, en tout cas de crédibilité. Donc, il y a aussi ce que la recherche peut nous faire en termes d'émotion, en termes de corps aussi, puisque il y a des déplacements, il y a la volonté aussi d'aller à la rencontre. Et toi-même, tu me disais que tu n'aimais pas travailler particulièrement seule, donc tu es aussi immergé dans ces rencontres. Et je crois que c'est tout ce contexte-là. On évalue souvent des recherches à l'aune de nos propres écritures et de l'exercice contraignant que peut demander parfois des écritures, alors que ce n'est qu'une toute petite partie en vrai.
Oui, bah, je dirais que l'écriture, c'est même la toute dernière étape. C'est une thèse, elle s'écrit en 6 mois, on va dire globalement. Alors, je te dis ça, mais je suis un mauvais élève de base, et ça se retrouve même dans mon travail actuel. Je dis que je suis mauvais élève parce que moi, j'ai ce alors, c'est pas un problème, mais c'est une particularité. En fait, parfois, j'ai l'impression que si je n'écris pas, je n'avance pas. Donc, j'ai besoin, si tu veux, d'avoir des notes, d'avoir des parties déjà commencées à rédiger, déjà écrites. J'ai besoin de produire, si tu veux, de la matière écrite. Sinon, j'ai cette sensation de piétiner, de ne pas avancer. Mais il faut bien vous dire, suivant le sujet, que effectivement la partie recherche, bah, elle n'est pas anodine du tout non plus. Et puis, bah, il va y avoir des gens, et c'est tout à fait entendable, tout à fait louable, il va y avoir des gens, s'ils n'ont pas tout leur corpus, toutes les étapes du plan bien définies, avec chaque partie à remplir, eh bien, ils ne vont pas pouvoir avancer. Et vraiment, il y a des personnes qui vont écrire dans les 6 derniers mois, dans les 4 derniers mois de leur thèse. Et ma foi, c'est aussi une pratique qui s'entend tout à fait. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire un petit peu en même temps. Alors forcément, ça oblige à être un peu discipliné quand même. De toute façon, la thèse, c'est de la discipline, hein, quoi qu'il en soit. Et par rapport à l'isolement, je crois qu'il y a un moment... C'est un exercice solitaire, la thèse. C'est fatalement solitaire à un moment ou à un autre. Mais il ne faut pas... Tu parlais, à juste titre, de la sécurité émotionnelle. Ça, je crois que c'est fondamental. Il y a une prise de conscience ces dernières années que des doctorantes sont réellement en souffrance physique et psychique par rapport à leur travail de thèse. Il faut voir aussi le rapport à la famille. Parfois, on a des familles... Et c'est pas de leur faute, parce que c'est un monde tellement particulier, mais qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Ils ont l'impression qu'on est tout le temps en vacances. Par exemple, moi, ça, combien de fois on me l'a dit ? Ouais, mais t'es en période de vacances. Bah non, je suis dans ma thèse. Et quand t'as une thèse, bah les vacances, ça n'existe pas. Il faut te les donner toi-même. Et ça, je vais dire le commun des mortels, c'est très méprisant. C'est pour rigoler, mais... En gros, les gens qui ne font pas de thèse ne peuvent pas comprendre ça, parce que c'est un monde, c'est une jungle un peu lunaire pour la plupart des gens. Mais il faut vraiment penser à cette sécurité émotionnelle. On est dans un labo, un collectif qui s'appelle Littéar. Je crois qu'il faut se rappeler que bah, y a des gens dedans, hein, y a des gens dedans, il y a des personnes et il y a des projets collectifs. Je pense qu'on va en parler. Hein. Il y a des projets collectifs. Il faut se rappeler que malgré l'isolement, vous n'êtes malgré tout pas seul. Et je crois que ça, il faut vraiment se le rappeler. Je vous souhaite vraiment d'avoir un bon rapport avec votre encadrement de thèse. Ça aussi, c'est fondamental, mine de rien. Moi, ça a été mon cas. J'ai été encadré par Marie-Agnès Catiard, qui a fait un travail mais absolument incroyable. Je lui serai toujours redevable de comment ma thèse s'est passée. C'est grâce à elle que j'en suis là, très clairement. Et voilà, il faut dialoguer dans la mesure du possible avec votre direction de thèse. Il faut dialoguer avec vos collègues. Il ne faut pas hésiter à dire quelles sont vos peurs, quelles sont vos angoisses, à aller contacter l'école doctorale s'il y a besoin. Si vous sentez qu'il y a un affaiblissement psychologique, il y a un centre de santé universitaire, ils sont là pour ça. Et d'autant que des docteurs et des doctorants qui sont en difficulté psychique, ils en voient passer des dizaines. C'est très 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 fréquent d'avoir des périodes de doute, d'avoir des périodes de mal-être dans sa thèse. Et vraiment, il faut le traiter. Je vous le dis parce que moi, je suis tombé en burn-out en ayant refusé mordicus d'avoir été en état de faiblesse psychique. Et j'ai failli le payer très, très cher, trop cher. J'ai failli le payer vraiment de ma santé psychique de manière quasiment définitive. Donc vraiment, vraiment, je vous le dis, protégez-vous. Allez voir vos collègues. Apprenez à ressentir le moment où vous craquez. C'est normal de prendre du temps pour soi. C'est capital de prendre du temps pour soi. Et c'est normal de ressentir des moments difficiles dans la thèse. Mais vous n'êtes pas seul. Et il y a vraiment des structures, des gens qui sont là pour vous encadrer et pour vous aider, qui sont passés par là aussi, qui connaissent parfaitement le problème. Donc vraiment, vraiment, j'insiste, je martèle là-dessus, mais faites-le. Aucun travail au monde, aucune passion au monde ne vaut votre vie, en fait. Ne vaut que vous sacrifiez votre santé, votre vie sociale de manière définitive là-dedans, vraiment.
C'est sûr. Mais avant d'arriver à cette après-thèse, parce que c'est ton burn-out, tu l'as vraiment vécu après ta thèse.
Après, oui, bien sûr.
Déjà, évoquer ce moment particulier de la recherche et revenir, alors tu l'as évoqué aussi, sur l'ITR, donc oui. Notre UMR, qui est à l'origine de ce projet d'émission. Et aussi rappeler, parce que c'est une composante, et puis aussi sans doute sa force, c'est sa transversalité. Puisqu'elle va rassembler des chercheurs qui travaillent sur l'Antiquité et sur des personnes qui travaillent sur l'hypercontemporain avec une petite, des lignes directrices hein, qui sont des convergences numériques, cette envie de travailler avec des outils numériques pour les textes, mais aussi dans l'abord de la scène, de la création scénique, que ce soit la danse, du théâtre. Et aussi, nous avons les départements de cinéma avec nous. Donc, on a vraiment une grande diversité de recherches, de pratiques, de spécialités, qui fait peut-être qu'on est plus sensible aussi à des rencontres qui pourraient venir un peu nourrir des terrains que nous pensions balisés et certains, puisque au gré de rencontres lors de journées d'études, lors de colloques ou parfois lors de soutenances. On va rencontrer ces personnes qui composent avec nous l'ITART, ou parfois juste parce qu'on partage même un seul bâtiment, enfin un bâtiment qui nous rassemble. Donc ça peut être dans le hasard parfois de couloirs ou de discussions. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça nous engage forcément à penser dans cette transversalité. Et c'est quelque chose que moi, je n'avais pas ressenti avant dans mes autres UMR, parce qu'on était vraiment beaucoup plus semblables, presque, on convergeait presque toujours vers les mêmes choses. Donc, on a inscrit ça peut-être dans nos thèses, mais aussi on l'a, en fait, de manière presque pratique dans l'exercice de la recherche, puisqu'on est associé à cette UMR. Avant de revenir je dis ça parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est cet encadrement et cet accompagnement dont tu parlais. Avant de revenir plus particulièrement sur la transversalité, comment la transversalité s'est jouée à différents moments dans ton parcours, on va faire une petite pause musicale. As the change sets in, we are separate, as the game begins. We are separate, some strings slackening, others giving in, change sets in. Cycles of three, triangles are tricky. Cycles of three, triangles are tricky. Cycles of three, triangles are tricky. As the change sets in, we are one again. As the game begins, we are one again. This is the natural order of things, change sets in. Moonshine, 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 freeze. Moonshine, 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 freeze. Moonshine, moonshine. Moonshine, freeze, moonshine, moonshine, moonshine.
the change sets in. We have lost our way. As the game begins, we are found again. As the change sets in. Cycles of three, moonshine, 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 free. 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 Cycles of three, moonshine, 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 free.
Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8 et aujourd'hui avec moi Clément pour évoquer ce grand parcours de thèse, de recherche et la transversalité qui a joué à plusieurs endroits de ton parcours. Alors oui. Peut-être une première partie, cette licence et ce diable qui survit, qui survient.
Oui, alors je suis quelqu'un d'hybride. Pas par nature, par curiosité, par câblage cérébral, appelez ça comme vous voulez, mais effectivement, de base, je suis un littéraire pur beurre, j'ai envie de dire. Je suis vraiment baigné dans la littérature, j'ai vraiment fait, à la base, toutes mes études là-dedans. J'ai commencé en licence à Lyon, licence de lettres modernes, donc vraiment tout ce qu'il y a de plus, j'allais dire classique, mais non, du coup moderne, mais voilà, vraiment le parcours littéraire... commun, on va dire, avec les auteurs français étrangers, jusqu'à ce qui que l'occasion me soit donnée de partir au Québec, à Montréal. Voilà, très grande période de ma vie parce que ça m'a notamment appris l'autonomie. Hein, je précise que je suis en situation de handicap, donc ça a été une très grande aventure humaine pour moi. Je suis parti par moins 30 pour la première fois de ma vie à 7 heures d'avion de chez moi, donc c'était vraiment le baptême de glace, c'était génial. Et ça m'a permis notamment voilà, de m'ouvrir notamment à la littérature nord-américaine. Et donc j'y suis allé deux fois au Québec, une fois donc en 2010 et une autre fois en 2015 pour les besoins de ma thèse spécifiquement. Mais en 2010, une fois que je suis revenu, donc j'ai validé ma licence en correspondance, hein, avec les unités de cours au Québec. En fait, et une fois que ma licence m'a été accordée en correspondance, je me suis dit c'est bien joli, mais maintenant faut faire quelque chose, parce que je me suis dit la licence c'est un niveau, c'est un niveau de diplôme qui me paraît encore trop bas. Je vais essayer de pousser un peu plus jusqu'au master. Et j'ai vécu cette appréhension du fait que partir vers la recherche pure en littérature, en sciences humaines de façon globale, c'est pas professionnalisant, c'est au niveau métier c'est compliqué, il y a pas de poste, tout ça. Alors, c'est pas forcément une légende, hein, mais par contre, effectivement, j'ai été un petit peu verrouillé sur cette idée de il faut absolument que je fasse un parcours professionnel, voilà, professionnalisant. Et donc, je suis arrivé à Grenoble parce qu'il y avait Mediat, il y avait le parcours Mediat. Alors, peut-être certains d'entre vous se diraient oui, mais il y en avait aussi un à Lyon. En fait, la raison pour laquelle je suis arrivé à Grenoble, c'est que j'avais pas vu qu'il y en avait un à Lyon. Je me serais peut-être rapproché de Lyon parce qu'à la base, je suis lyonnais. Ça tient à rien. C'est juste que j'ai regardé au Québec vite fait et je me suis dit, il faut que j'aille à Grenoble alors que j'aurais pu aller à Lyon. Ça tient à pas grand-chose. Hein. Mais comme quoi, quelque part, ma destinée s'est accomplie là, parce qu'il s'avère que dans le parcours Mediat, je ne me suis pas senti à ma place. Alors, c'est pas du tout une critique sur le parcours. Hein. Je dis juste que moi, je ne me suis pas senti à ma place parce que j'ai vite senti l'appel du texte, l'appel de la littérature qui revenait. Et Yves Citon a été un professeur extrêmement important pour moi là-dessus. Yves Citon qui est, qui est connu à Grenoble. Hein. Alors maintenant, il est parti, il enseigne, je crois, juste en Suisse maintenant. Mais voilà, Yves Citon, dans son approche de littérature, a été important. Il a écrit notamment des ouvrages sur les études littéraires en France. Donc du coup, je suis allé lui parler, je lui ai parlé de Nedo, je lui ai dit, le parcours du livre, c'est chouette, mais moi, en fait, je me rends compte que les concours d'État bibliothécaire me plaisent pas. Je veux, le texte me manque, en fait. Je veux faire de l'approche intellectuelle sur le texte pur. Et Yves Citon m'a écouté, il m'a compris, il a dit écoutez, il faut être conscient de la difficulté que c'est d'évoluer dans un monde de littérature au niveau des postes, au niveau... Mais si vraiment vous sentez que c'est cet appel-là qui vous correspond, n'allez pas vous rendre malheureux dans un parcours qui ne vous correspond pas. Et d'après ce que vous me dites, il avait senti que j'étais porté vers l'imaginaire, que j'étais un geek déjà. Et il me dit, bah, d'après ce que vous me dites, il faut aller voir Philippe Walter, directeur du CRI. Alors le CRI n'existe plus, du moins il n'existe plus. Il a fusionné en autre chose, il a fusionné en imaginaire et socio-anthropologie maintenant. Il fait partie d'une composante de l'ITR donc. Mm-hmm. Mais à l'époque, c'était le CRI, le Centre de Recherche de l'Imaginaire, qui a été fondé par Gilbert Durand à l'époque et qui a été notamment dirigé donc par Philippe Walter pendant plusieurs années. Et je te l'ai dit quand on a préparé l'émission, à la base, moi je suis allé devant le bureau de Philippe Walter et... sur ce bureau, il y avait un griffon. Il y avait un griffon qui entrelaçait les lettres du Centre de Recherche de l'Imaginaire. Et tu vois, c'est comme les vampires dont on parlait ce matin. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'appel, si tu veux, de dire « je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce que c'est, mais il faut que j'y aille, il faut que je sois dedans, il faut que je sois au Centre de Recherche de l'Imaginaire. » Et donc, j'ai parlé à Philippe Walter, j'ai expliqué ma situation. Il m'a dit « écoutez, je consens tout à fait à vous prendre en tant qu'étudiant de mémoire. » Mais par contre, voilà, vous débarquez au début du semestre 2, donc il faut absolument que vous produisiez un texte, quelque chose qui me permette de voir ce que vous faites, ce que vous pourriez faire en recherche avec moi. Donc il va falloir qu'on réagisse très vite et que vous produisiez pour la fin de l'année, pour le mois de juin, un petit mémoire. Et donc on discutait, et je me suis dit, il faut absolument que je convoque quelque chose. Et en fait, en discutant, je me rends compte que je me suis trompé dans l'ordre. J'ai d'abord commencé par le cheval et après par le pacte avec le diable en Master 2. Mais effectivement, au tout départ, on a discuté du folklore et je lui ai dit que le diable m'intéressait beaucoup, la figure du diable m'intéressait beaucoup. Et il me disait, bah, dans le folklore régional du Dauphiné, de la Savoie, il se trouve qu'il y a énormément de diables qui se transforment en chevaux pour aller précipiter les pêcheurs, les paysans ivres ou pris en faute dans des ravins ou dans des rivières. Il faudrait arriver à bosser là-dessus. Donc, ni une ni deux, je me suis mis là-dessus. Et après, en Master 2, bah, le diable est revenu vers moi, si je puis dire. Et je me suis dit, avec le pacte avec le diable, on a quelque chose à faire. Donc, je me suis mis à étudier les pactes avec le diable en littérature médiévale. Donc, le miracle de Théophile, de Rudebeuf. Et puis après, il y a eu évidemment Faust, hein, de Goethe. Et je me suis dit, voilà, ça m'a permis d'étudier... Déjà, l'approche était transversale, tu vois, parce que je me suis mis à étudier Saturne, et quand tu étudies Saturne, bah, tu étudies les humeurs, la théorie des humeurs, hein, qui est une théorie qui a eu énormément cours, hein, qui, en gros, explicitait qu'en fait, les émotions et les ressentis dans le corps viennent d'un certain nombre de fluides et d'humeurs qu'on a, notamment la mélancolie est sécrétée par la bile noire, donc c'est lié à Saturne, et donc Saturne, bah, c'est la pilosité, et la pilosité, pleine lune, le loup-garou, donc tu vois, il y a vraiment des choses à faire là-dessus autour de ça, donc je me suis retrouvé à faire ces travaux de mémoire vraiment spécifiques sur le diable, et après, la transversalité a été différente pour la thèse.
Alors, en réfléchissant un peu sur les transversalités, je me disais que pour s'en rendre compte vraiment de cette opération des transversalités, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a une interaction, forcément, il y a un croisement qui est significatif. Mmh. Alors, le croisement aussi, c'est un grand lieu commun de toute la littérature de folklore. Hein. Il se passe quand même beaucoup de choses dans ces croisements. Mais en l'occurrence, pour vraiment comprendre la transversalité, c'est parce que elle est source d'interaction et dans cette première partie, il me semble quand même qu'il y a quelque chose de très volontaire. Tu es allé au devant presque de cette transversalité. Elle devait faire partie finalement de cette reprise de chemin lorsque tu as quitté Mediat et que tu as voulu ressaisir quelque chose qui t'appartenait mieux.
Complètement, mais je me suis rendu compte et je le formalise vraiment, tu vois, en te parlant actuellement. Je suis pas quelqu'un qui est câblé pour être enfermé, dans tous les sens du terme. J'ai très mal vécu les confinements, comme beaucoup d'entre nous, mais je suis pas câblé pour être enfermé, même de manière intellectuelle. J'ai vite compris que j'avais besoin, que j'avais une ébullition mentale qui devait être satisfaite absolument par une envie. J'ai toujours été un passionné de mythologie de plusieurs pays, de contes, de culture geek évidemment. La culture geek est bâtie complètement sur la transversalité. S'il y a des fans de Rick et Morty parmi vous, vous n'allez pas me contredire. Ils ne fonctionnent que là-dessus, que sur la transversalité et l'humour noir dans la culture geek. Mais j'ai eu besoin vraiment de ce brassage, de vraiment d'aller dans différents chemins, dans différentes routes. Et j'ai eu besoin d'encadrement, mais vraiment, parce que sinon je partais dans tous les sens. Donc il a fallu aussi qu'on me discipline avec douceur, hein, de manière débonnaire, hein, mais qu'on me dise, parce que être chercheur, c'est aussi apprendre à se discipliner, à suivre une méthodologie, à suivre un fil. Alors ce fil, il peut avoir plusieurs directions, bien sûr, mais il y a un moment, il faut aussi avoir une méthodologie, se discipliner. Et disons que j'ai trouvé des personnes qui ont compris que j'avais ce côté un peu flamboyant, un peu foufou dans ma tête et dans ma thèse par la suite, et ils ont respecté ce côté foisonnant tout en m'apprenant à être un chercheur consciencieux et à le répéter par la suite. Donc l'encadrement a été absolument capital, et moi je suis quelqu'un, bah, tu l'as senti, qui va vers les gens, dans le sens où si j'ai une question à poser, je vais aller prendre rendez-vous avec le prof. Je suis ce genre-là de personne. Ça m'a valu parfois dans ma scolarité plus jeune une réputation parfois un peu pénible de faillot, de tout ce que vous voulez. Mais j'ai tenu bon. J'ai tenu bon une fois que j'ai grandi. J'ai tenu bon dans cette perspective de dire il y a des gens qui peuvent m'aider, qui peuvent me comprendre, qui peuvent m'écouter. Il faut que j'aille les voir. Je leur demande poliment. Il ne s'agit pas de stalker les gens ou de leur sauter sur le dos. C'est pas la question. On demande poliment. Mais par contre, il faut aller au-devant de ces personnes-là, bien sûr.
Et je trouve que c'est très, très, très à ton honneur. Et en plus, je trouve que le geste volontaire de créer des interactions, de créer des rencontres, et fondamental aussi dans la recherche. Je pense qu'on ne doit pas compter que sur les surprises. Et de cet encadrement aussi, hein, ne jamais oublier qu'il y a le cadre dans l'encadrement. Heureusement que ces personnes sont là pour nous mettre quelques cadres lorsque on commence à partir peut-être un peu trop ailleurs.
Mais c'est ça.
On va faire une toute petite pause avant de réévoquer un autre moment de cette transversalité qui arrive avec ta thèse, justement.
Oui.
I'm so scared of being alone, it's true.
êtes bien sur Radio Campus 90.8, Radio Campus Grenoble. Et aujourd'hui, l'émission consacrée au chemin de traverse de la recherche. Et évoquer comment, tout d'un coup, dans l'imaginaire, surviennent ces neurosciences. Tu peux nous expliquer ça, Clément ?
Oui, pareil, bah avec plaisir. Je suis encore une fois un être hybride là-dessus parce que, une fois le mémoire terminé, validé, tout bien. D'ailleurs, Yves Citon était dans mon jury de mémoire. Ça colle complètement avec ce qu'on est en train de dire. Je réponds à ta question immédiatement, j'ai toujours été très touché dans la pop culture et dans ma vie de chercheur par la relation maître-disciple, mentor-disciple. Ça, c'est toujours quelqu'un. Je suis rôliste et toujours mes personnages ont cette relation de maître à disciple tout le temps. Il y a toujours un dépassement, d'égaler son maître, son mentor. Et j'ai toujours eu cette relation-là dans la recherche. C'est assez dingue. Et je suis très respectueux de mes mentors, et donc ça cadre avec ce qu'on va dire là, c'est-à-dire que effectivement j'ai eu un bel encadrement, que ce soit de la part de Philippe Walter ou de la part de Marie-Agnès Catiard. C'est vraiment, ça a été des maîtres et maîtresses extrêmement précieuses pour moi, parce que justement Philippe Walter a compris qui j'étais, dans le sens où effectivement une fois qu'on a terminé le master, il était motivé, Philippe Walter, très motivé. C'est quelqu'un d'extrêmement jovial, d'extrêmement volubile, parfois il était extrêmement motivé à ce qu'on continue en thèse, et moi je venais de sortir justement du mémoire de M2, et il commençait à me dire, si vous voulez qu'on fasse une thèse sur le cheval dans l'imaginaire, il y a plein de choses. Je dis oui, j'en doute pas, mais je venais de découvrir à l'époque Jean-Marc Lenné, qui avait notamment travaillé sur les super-héros en pop culture, qui avait fait un essai entier. Puis moi, j'étais fasciné par le fait qu'on puisse faire des essais sur les super-héros. Je vous l'ai dit, je suis un geek. J'étais un peu timide de dire, comment vous dire, je sens l'appel du geek en moi, et je voudrais travailler l'approche mythologique, l'approche mythique. Je lui fais tout un laïus, tout un justificatif de dire, en fait, je suis désolé, mais je voudrais travailler sur le super-héros. Et il m'a regardé, il m'a dit, bon, écoutez, je ne peux malheureusement pas vous aider dans ce domaine-là. Je ne suis pas compétent, parce que voilà, c'est un médiéviste, on ne peut pas être compétent en tout, mais c'est quelqu'un d'extrêmement compétent dans sa partie. C'est peu de le dire, hein, Philippe Walter est un grand nom. Mais par contre, pour les super-héros, effectivement, il ne pouvait pas m'aider. Mais il m'a dit, par contre, allez voir cette dame-là, Marie-Agnès Catiard. Et Marie-Agnès Catiard, moi, j'en avais entendu parler parce que elle animait avec Patrick Pajon, qui depuis nous a quittés malheureusement. Mais elle animait avec Patrick Pajon le séminaire Imaginaire du cerveau. Et notamment, il y avait une séance Imaginaire du cerveau et science-fiction. C'est là que j'ai rencontré notamment Jérôme Goffet, hein, du collectif Stella Incognita. On était appelés à se revoir de nombreuses années plus tard. Voilà, mais rencontre toujours. Et j'avais donc vu les travaux de Marie-Agnès Catiard là-dessus. Et je me suis dit, bon, très bien, cette dame a l'air, elle aussi, extrêmement compétente dans sa partie, c'est très bien, elle travaille en neurosciences, elle travaille sur la surdité, notamment, et l'appareil de la surdité. Je me dis, oui, mais moi, je veux parler de Batman, que faire? Et donc, on a commencé à discuter par mail, on convient évidemment d'un rendez-vous, je vais au rendez-vous, et là, soudain, donc Philippe Walter lui avait un peu parlé, évidemment, et là, soudain, je la trouve à regarder sur son ordinateur des plans de la Batmobile. Donc, je le rappelle, hein, la Batmobile, c'est le véhicule de Batman, hein, privilégié. Et je commence à sourire. Et là, tout de suite, je me suis dit, bon, d'accord, je pense que ça va marcher parce qu'elle fait cet effort-là d'aller dans cette culture qu'elle ne connaît pas. Et donc, ça veut dire qu'elle estime que je peux peut-être lui apporter quelque chose. Elle m'a dit, oui, je me renseigne un petit peu. Et on a commencé à parler, justement, de l'imaginaire du masque. À la base, on était parti sur travailler sur tout l'aspect schizoïde, un petit peu, du super-héros. Et puis, de fil en aiguille, en discutant, de rencontre en rencontre, elle m'a poussé notamment à intervenir dans des festivals comme les Utopiales, où j'ai rencontré quelqu'un comme Roland Lehoucq, qui est un astrophysicien, qui a notamment travaillé sur Superman, qui s'est retrouvé dans mon jury de thèse de fil en aiguille, voyez-vous. Et ce qui s'est passé, c'est que de fil en aiguille, on s'est dit, les super-héros, ils parlent quand même beaucoup de science. Il y a souvent une super-science, c'est les super-héros qui leur donnent leur pouvoir. Est-ce qu'on pourrait pas regarder l'imaginaire scientifique tel qu'il est supposé par les super-héros, et voir comment, dans notre science à nous, dans notre référentiel, cette science-là est comprise. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à travailler sur les imaginaires du cerveau pour voir comment volait Superman, à travailler sur la physique, à travailler sur les notions de champ visuel et les aveugles et l'écholocation des chauves-souris, des personnes aveugles, parce que Daredevil, qui est un héros de Marvel, est un super-héros aveugle qui surperçoit son environnement. Ce que j'essaye de vous dire, en termes de transversalité et d'hybridité, c'est que moi, un littéraire pur beurre, je me suis retrouvé à frayer sur des chemins de sciences dites dures, de neurosciences, d'astrophysique, de physique, et j'ai adoré ça. C'est génial. Il faut savoir que Marianne Iscatia a fait partie des personnes qui ont défendu l'idée, et Philippe Walter l'a soutenue, qui ont défendu l'idée que nos schémas d'imaginaire viennent aussi du câblage de notre cerveau directement. Hein. Il y a une approche neurologique à faire avec le fait qu'on approche la littérature et l'imaginaire. Et moi, j'ai été, avec toute la modestie, un petit peu appelé à hériter de cette approche-là et de la montrer dans mon travail de thèse. Et c'était génial. Moi qui effrayais avec du texte pur, je me suis retrouvé à combiner ce texte pur, cette approche littéraire, à une approche scientifique. Et je crois que ça, c'est une des grandes forces de notre UMR et de l'IDEAR, d'arriver à poser cette transversalité, tu l'as bien dit. Et ça, c'est génial de pouvoir avoir des travaux de thèse. Alors, il y a le mien, mais pas que, évidemment. Hein, voilà. Mais c'est génial d'avoir des travaux de thèse qui vraiment portent au-devant de la scène et de la recherche l'idée que les sciences dites dures peuvent parfaitement s'allier, s'entrecroiser avec les sciences humaines.
D'autant que des fois, c'est un peu compliqué de s'approprier des terrains qui sont éloignés justement de nos premières préoccupations. Alors je ne sais pas si tu connais une autrice, une chercheuse américaine qui s'appelle Karen Barad.
Non, j'avoue que non.
Qui travaille aussi sur un croisement entre les structures de l'intention, de l'interaction et ce que tu appelles les câblages de nos cerveaux. Mmh. Et qui donc, elle ne travaille pas directement sur l'imaginaire, mais ce que je trouve assez fascinant, c'est que beaucoup d'artistes aujourd'hui s'appuient sur ses recherches et elle va créer des liens. Alors, elle n'a pas écrit directement sur l'art, mais elle propose des concepts qui sont tout à fait redéployables et employables par des artistes, notamment des artistes qu'on appelle des arts médiatiques ou des arts numériques. Et il y a encore une petite frilosité, je trouve, en France. Et c'est vrai que des fois, on a besoin de... alors, cette fois-ci, pas d'un encadrement, mais d'un accompagnement ou d'un épaulement, parce que on se trouve face à plusieurs feux ou face à des choses qui se renvoient et dont on entend l'écho, dont on est vraiment persuadé d'un écho extrêmement fertile, mais avec des terrains un peu fragiles ou qu'il faudrait presque motiver. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir avec soi des personnes qui, à la fois, sont sensibles à notre transversalité et qui peuvent aussi, justement, les nourrir ou nous confronter à la validité et à la cohérence, en fait. La transversalité, elle a besoin aussi d'éprouver une forme de cohérence.
Bien sûr, je suis, on ne peut plus d'accord avec ça, d'autant que, par exemple, je parlais de Roland Le Houx, d'astrophysique et du Festival des Utopiales à Nantes. Dites-vous bien qu'un festival comme les Utopiales n'est fondé que là-dessus, quasiment. Vous avez des scientifiques, mais tout ce qu'il y a de plus scientifique, qui côtoient des littéraires de hard science ou d'imaginaire... Parce que justement, c'est constamment, la science dialogue constamment avec les arts, avec les sciences humaines. Vraiment, il y a des gens qui essayent de nous faire croire à tort qu'on est deux factions séparées et qu'on vit dans notre île. Non, bien sûr que non. On n'est pas des factions ennemies, on est tous des chercheurs et des chercheuses. Et bien sûr qu'il faut qu'il y ait ce dialogue. Mais moi, je ne vis que par ce dialogue. Moi, je ne suis le chercheur que je suis que parce que des gens, justement, ont validé ce dialogue-là. Et alors, la soutenance de thèse, c'est une étape extrêmement importante, hein, c'est pas anodin du tout, c'est pareil. La soutenance, c'est tout simplement la validation de votre travail. Dites-vous qu'aujourd'hui, on ne laisse pas passer une thèse en soutenance si on n'est pas sûr qu'elle est validée. Ce qui est très bien, ça veut dire que si on estime que vous n'êtes pas prêt à soutenir, c'est qu'il faut encore travailler. Mais par contre, maintenant, quand on passe devant le jury, ça veut dire que vous êtes chercheur. Et c'est pas une formalité, hein, c'est important, c'est un rituel, Mais simplement, ça veut dire que des gens valident votre travail. Et la composition du jury de thèse, elle est également essentielle. Et mon jury de thèse a été transversal complètement. Il y avait Roland Lehoucq, donc astrophysicien président des Utopiales de Nantes. Il y avait Sylvie Freyermouth qui a travaillé en littérature comparée. Il y avait, alors, c'était juste l'époque où la direction de thèse n'avait pas le droit d'être dans le jury. Donc Marie-Agnès était dans le public. C'était vraiment l'année où ça a été passé, ça, où il n'y avait plus le droit. Il y avait Philippe Walter. En gros, il y avait tous mes anciens mentors qui étaient là pour valider mon travail. Et on se sent, mais on se sent comme un Jedi, vraiment. C'est génial d'avoir cette sensation-là et d'avoir des gens d'un autre domaine que vous qui vous disent oui, c'est ce que vous avez fait là, ça passe, c'est tout à fait légitime. Et moi, on m'a même, alors, toute modestie gardée, hein, on m'a même sorti pendant ma soutenance, on m'a dit « vous êtes à l'avant-garde ». Waouh, c'est super, c'est génial d'avoir ce compliment-là. Et bon, c'était une époque où j'ai soutenu en décembre 2017, hein, où on ne distribuait plus les mentions, mais on m'a clairement dit « on ne le fait pas, mais vous auriez les félicitations du jury à l'unanimité ». Et on se bat pas pour la mention, mais c'est super agréable de se dire que vous avez passé 4-5 ans de votre vie et que oui, c'est valide, et ce que vous avez fait porte du sens, en fait, apporte quelque chose. Et quand on vous dit que vous avez proposé une approche originale de votre sujet, mon Dieu que c'est génial, et mon Dieu que vous êtes fiers d'avoir accompli ça, quoi, vraiment.
Donc vraiment, on peut penser que la transversalité a quelque chose de très très positif dans la recherche. Je voudrais juste finir cette émission pour conclure un petit peu tout ce parcours que tu nous racontes. Tu nous as dit tout à l'heure que tu ne vis que par ce dialogue, donc le dialogue de tes mentors, le dialogue dans l'encadrement, dans l'accompagnement. Et ce que je voulais évoquer encore avec toi avant de me rendre l'antenne, c'est que fait-on après ? Et qu'est-ce que l'on garde de cette transversalité ?
Je vais tâcher de faire très court. Alors, bon, j'ai toujours tendance à être honnête à 200% quand je réponds à une question, surtout quand elle me touche directement. Voilà, c'est pour ça que... Pourquoi je vous ai dit de faire attention à votre santé ? C'est parce que j'ai fait un burn-out après la thèse, le burn-out carabiné. J'ai eu vraiment besoin d'aide dans le sens le plus strict du terme. Voilà. C'est des choses qui arrivent, mais quand on a le bon accompagnement, encore une fois, le bon encadrement, cette fois-ci psychique, eh ben, on s'en sort. Il y a aussi une part de volonté, évidemment, mais voilà. Donc ça peut arriver, pas à tout le monde, mais ça peut arriver, et il faut savoir que oui, on peut s'en sortir. Après, l'après-thèse pure, évidemment, le monde de la recherche, je vous le dis, c'est un monde qui est difficile. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, il y a très peu de postes. Il y a des gens qui ont encore plus de diffusion scientifique que moi, plus d'enseignement, qui n'arrivent toujours pas à trouver un poste fixe depuis 8-10 ans, donc... C'est difficile. Donc, quand on n'y arrive pas à trouver CNRS, à mettre de conf, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui reste à faire ? Créer son propre métier. Donc, c'est pour ça que je suis devenu auto-entrepreneur, conférencier dans la pop culture. Excusez-moi. Et je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de transmettre. Je veux être un transmetteur de quelque chose. Je veux aller vers les gens tout le temps. J'ai ce côté-là. Le meilleur moyen, c'est de devenir... Un voyageur de la pop culture et de proposer mon vécu, mon expertise du coup dans tel et tel domaine. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à créer mon statut de conférencier, à travailler avec beaucoup de structures, notamment des festivals. Je pense aux Imaginales d'Épinal, je pense aux Utopiales de Nantes, où évidemment je retrouve Roland Lehoucq. Je pense aux colloques universitaires. Je suis toujours chercheur associé à l'ITR. Hein. C'est juste que je n'ai pas continué dans le domaine universitaire pur. Simplement, je me suis servi de mon expérience universitaire et de mon expérience de chercheur pour devenir encore... tous les jours, j'espère, un meilleur chercheur et pouvoir porter au grand public pour bien rappeler qu'on ne vit pas sur une île, justement, et que le grand public est demandeur de tout ça. Et ça, il faut vraiment aussi le porter et le défendre. Et honnêtement, c'est la raison pour laquelle je me lève le matin. Voilà.
Et donc, dans cette pratique de chercheur quotidienne, hein, qui demande vraiment une attention aussi à développer un réseau, tu me disais que le mouvement se nourrit tout de lui-même. Ça y est, pour toi, donc ça, c'est vraiment quelque chose de super d'entendre. Alors, que faire de la recherche est toujours possible, même quand on s'invente les cadres de notre propre recherche.
Je suis dans une phase où je suis obligé de refuser des missions parce que j'ai trop de travail. Je suis sur un troisième livre là en pop culture et je continue à faire des colloques. J'en ai un cet après-midi là en ligne avec mes collègues de France et du Canada où j'interviens sur Rick et Morty précisément. Et voilà, je suis dans un stade où je suis obligé de refuser des missions et où la stabilité financière commence à arriver un petit peu. Simplement, dites-vous que ça prend du temps. Voilà, il faut accepter. On retrouve le côté senpai, le côté maître-disciple. Il faut accepter. La discipline, c'est aussi apprendre la patience. Et je suis quelqu'un d'extrêmement impatient. Et ça, il faut apprendre aussi à se discipliner, à se dire que les choses vont arriver quand elles doivent arriver. Une fois que vous faites ce qu'il faut, laissez faire le temps. Je sais que c'est super facile à dire, surtout si vous êtes en galère, notamment financière, mais au bout d'un moment, à force de persévérer, ça finit par rouler, je vous jure que c'est le cas. Moi, ça a mis des années, mais ça y est, je commence, je continue d'être de plus en plus connu, vous ne le voyez pas, mais je fais des guillemets, de plus en plus reconnu, de plus en plus vu dans mon milieu, dans le milieu de la pop culture, de l'imaginaire. Donc, au bout d'un moment, le réseau se nourrit lui-même et ça finit par arriver. Mais c'est juste qu'il faut, oui, de la persévérance, de la patience. C'est pour ça que je me fâche beaucoup quand on me dit que les sciences humaines, c'est pas de la recherche. Non, nous sommes des chercheurs au même titre que les blouses blanches, au même titre que les sciences dures. On n'est pas des ennemis, on est des chercheurs, tous et toutes. Et on a tout autant de mérite que les autres. Personne n'a moins de mérite dans ce domaine-là, ça je vous l'assure. Ne vous laissez jamais, jamais dire ça. Vous m'appelez, je vais leur parler, il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup Clément. En tout cas, merci d'avoir ouvert ce bal.
Merci à toi.
On va se quitter avec une petite musique juste pour la transition avant que Radio Campus poursuive sa journée. Merci beaucoup donc pour ces témoignages et pour ces conseils que tu nous as glissés dans ces témoignages qui seront peut-être précieux pour tous ces jeunes docteurs et doctorants qui soit se demandent ce qu'ils vont faire après leur thèse, soit qui se demandent mais qu'est-ce qu'ils font avec cette thèse. Merci beaucoup.
Merci à toi. Yeah.